Mardi 23 avril ou mercredi 24, si vous écoutez leur diff, notre invité ce soir et tout au long de la semaine, ce sera Léa. Bonsoir Léa.
Bonsoir.
Bonsoir Léa.
Eh oui, Léa Beaumont, infirmière puéricultrice. Elle va nous parler de son métier et de tout ce qu'elle fait dans le code de ce métier. Dans quelques instants, autour de la table, on retrouve l'équipe de Buzz Radio. Christelle et Dylan, salut vous deux.
Bonsoir
salut,
tout le monde.
Salut à tous.
Bonsoir Yannick.
Yes, bonsoir les amis. Et de l'autre côté, on retrouve Janice, on retrouve Louis et un petit nouveau, Anthony. Salut vous trois.
Bonsoir.
Salut tout le monde.
Bonsoir à tous.
Et d'ailleurs, ce sera qui? Ce sera Louis qui fera une chronique ce soir.
Oui, hein, ce sera moi.
Voilà. Tu nous fais pas comme Jean-Marc?
Oui, c'est moi.
Voilà, c'est ça. Et bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter. Vous êtes sur Énergie, c'est l'heure du grand show de Buzz Radio.
Buzz Radio, le talk show où on parle actu avec humour et bonne humeur, en compagnie de Yannick et son équipe du lundi au vendredi à 18h30, rediffusion à 12h. Buzz Radio.
Avec le Café Del Paps, une cuisine comme on aime. Au 6 rue Diego Sanui, entrée à gauche avant la clinique de Nouville. Réservation 24 69 99.
Buzz Radio, c'est sur Énergie.
Et voilà.
Encore.
Ben oui. Vous êtes de retour, mais on a un petit nouveau cette semaine. On a Anthony.
Salut.
Bienvenue
salut.
Chez les fous.
J'ai cru comprendre.
Ben oui, parce que JM n'est pas là, Delphine n'est pas là, Anaïs n'est pas là. Donc tu portes le poids de Jean-Marc, de Delphine et de Anaïs sur tes épaules. Ça va? Tu le vis bien?
Beaucoup trop.
Les trois réunis trop. Pèsent lourd.
Waouh.
Mais chacun de leur côté ne pèse pas très lourd.
Alors c'est vrai que notre dernière avis c'était Janice. Janice, t'as un petit conseil à donner à ce petit nouveau alors?
Bon courage.
Yes. C'est très encourageant.
Non, je vais te donner les mêmes conseils que m'a donné Christelle. Tape pas sur la table, parle dans ton micro. Et voilà.
Tu dis avec la même gentillesse qu'elle en plus.
C'est vrai, je peux pas lancer le jingle Dark Vador tout de suite,
Janice,
parce qu'il y a la musique de l'émission tu vois, derrière en ce moment.
D'accord. Mais
donc c'est pas grave. Bah, en tout cas, merci. Bah, Anthony, bienvenue autour de cette table.
Ouais,
on va te checker comme ça. On applaudit Anthony. Et on applaudit surtout notre invité. Notre invité, c'est Léa Beaumont. Elle est là pour nous parler effectivement de son métier d'infirmière puéricultrice. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est que ça qu'une infirmière puéricultrice? Explique-nous.
Alors une infirmière puéricultrice, c'est une infirmière qui donc a fait son diplôme d'infirmière pendant 3 ans.
D'accord.
Et qui après fait une spécialisation en puériculture, donc c'est une année supplémentaire.
Et voilà. Qu'est-ce que c'est que la puériculture exactement?
L'élevage d'enfants.
L'élevage d'enfants. Non mais vraiment, il y a vraiment des personnes qui m'ont demandé ce que je plantais.
Donc,
voilà.
Des petites graines.
Donc en tant qu'infirmière puéricultrice, je m'occupe des enfants de la naissance jusqu'à l'adolescence. Voilà.
Ah, c'est pas que les bébés.
Non.
C'est donc un pédopsychiatre en fait. Enfin, un pédopsychiatre,
un pédiatre.
Voilà. Exactement. Pardon.
Pour ma part, moi, je préfère les bébés, mais c'est vrai que on est formé jusqu'à l'adolescence et on est formé chez l'enfant jusqu'à l'adolescence qui va bien, donc savoir son développement normal, mais aussi prendre en charge ces enfants qui peuvent être hospitalisés, qui peuvent avoir des problèmes, voilà, dès la naissance ou plus tard. Voilà.
Et toi, tu travailles dans un centre hospitalier ou t'es en libéral?
Non, je travaille au Medipôle.
D'accord.
Et en néonatologie.
D'accord. Service des naissances un peu complexes, hein, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Donc, on a essentiellement des enfants qui sont nés prématurément et aussi qui ont des difficultés à la naissance.
Et toutes les infirmières qui travaillent dans ce service, elles sont forcément puéricultrices ou pas?
Non. Elles peuvent être juste, entre guillemets, on va dire, infirmières. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières puéricultrices. Mais on privilégie quand même une infirmière puéricultrice par rapport à une infirmière qui n'a pas fait la spécialisation. Pardon.
Et bah, très bien. Je pense qu'on peut applaudir notre invité. Et de toute façon, Léa, elle nous parlera plus en détail, effectivement, de son métier d'infirmière puéricultrice. Ce sera lundi prochain, quand on fera sa grande interview. En attendant, Léa, elle va s'amuser avec nous dans Rentouchot de Buzz Radio. Allez, avant de continuer cette émission, arrêtons-nous quelques instants pour parler du groupe Tropic, spécialisé dans l'immobilier, cher Dylan.
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'un local commercial que vous souhaitez louer et vous souhaitez trouver une agence qui gère votre bien en toute confiance, ayez le réflexe Tropic Immobilier. Son équipe de professionnels dynamiques sera à votre service pour vous accompagner de A à Z dans la recherche de votre locataire et assurera le suivi pendant toute la durée de la location. Pas de doute, Tropic Immobilier, c'est l'agence qu'il vous faut.
Exactement. Eh oui. Le groupe Tropic, c'est notamment 2 enseignes, hein, Tropic Immobilier spécialisé dans la gestion locative et JMS spécialisé dans les transactions immobilières. Rendez-vous directement dans leurs locaux situés au Quartier Latin ou sur leur site internet www.tropic.nca. Alors Ça va, Louis? Tu t'es pris un coup d'œil de ma part.
Ouais, j'ai pris 1 minute 35 pour me faire engueuler par toi.
Ouais, c'est ça. C'est
un nouveau record.
C'est vrai, c'est vrai. Non, ça a été pire, c'est déjà arrivé avant qu'on lance les émissions. Bon, c'est pas grave. On va ouvrir cette émission avec l'image du jour en radio. Alors, je crois que c'est Anthony, notre petit nouveau, qui va retourner sa feuille. Et Christelle, je vous rappelle le principe. Vous avez une image, il va falloir nous la décrire et nous dire qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce que tu vois sur cette image, cher Anthony?
Alors, je vois la carte des États-Unis avec une coloration plus ou moins foncée, du rouge vers le violet.
Sur toute la carte, du coup?
Non, juste sur une partie. Et après, juste en dessous, on a un dessin où on a la même carte, sans couleur pour le coup.
Voilà.
Mais juste un trait bleu qui la traverse un peu du sud-ouest vers le nord-est.
Très bien. Christelle, tu veux compléter?
Oui, alors moi, je compléterai. Ça part du Maine jusqu'au Texas.
Ah, ah,
oui,
ah,
c'est
ah,
la
meuf
qui est dans la place.
Alors, à votre avis, est-ce que
on
donc c'est tout
carte
à fait ça
météo. Ouais,
alors, c'est pas une carte météo. Tu sais ce que c'est,
ouais,
toi, Anthony? Vas-y, dis alors.
Il y a un truc comme quoi 70% ou 75% de la population américaine vit à l'est de cette droite-là,
oui,
et le reste sur la gauche.
Alors, c'est peut-être vrai, mais rien à voir avec ça.
C'est les élections. C'est les élections.
Louis, j'y sais, vas-y.
C'est les endroits aux États-Unis où on a pu observer l'éclipse solaire.
Alors, tu as un premier élément de la réponse, cher Louis. Et donc, du coup, parce que la carte en dessous, la carte où tu vois une espèce de ceinture comme ça sur les États-Unis, ça, c'est le passage de l'éclipse. Et vas-y, Anthony, du coup.
Ah, je crois que j'ai. En fait, c'est la carte du nombre de recherches le plus important sur j'ai mal aux yeux ou un truc comme ça suite au passage de l'éclipse.
Et c'est pas une bonne réponse, mais on va dire bonne réponse quand même, on l'applaudit.
C'est pas les Airbnb ou je sais pas quoi là. Non, c'est pas ça.
Ah, c'est les mecs qui ont tapé j'ai mal aux yeux ou un truc comme ça
c'est
suite
ça
à l'éclipse.
Du 3 au 10 avril, effectivement, les gens se sont informés avant l'éclipse, parce que l'éclipse, souvenez-vous, c'était le 8 avril, n'est-ce pas?
Oui.
Et donc, du 3 au 10 avril, les gens ont tapé mal aux yeux, éclipse, danger, éclipse, ce genre de choses. Et donc, quand on regarde toutes les requêtes Google, effectivement, ça va suivre à peu près la trajectoire. Ça veut dire que les gens savaient que l'éclipse passait par chez eux quand
oui,
même.
Mais alors, moi, j'ai vu les images du passage de l'éclipse, mais ils en ont fait une fête, hein.
Bah oui,
t'avais l'air
c'est
le 4 juillet quoi,
bah
c'est
un événement.
C'est bon, il y en a une en France au début des années 2000, on en a pas fait tout à fait.
Bah oui, j'étais pas né, donc voilà.
Mais
bah
oui,
okay. mais quand même une éclipse totale, c'est rare là où tu habites. Dans ta petite maison, toi, t'as vu une éclipse totale déjà de où tu es?
Bah oui, bah pas en Calédonie, mais en France, oui.
Oui, mais toi t'as un grand âge, c'est pour ça. Bon, en tout cas, pourquoi les éclipses sont dangereuses effectivement? Janice, t'es une méchante.
Pardon.
Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que c'est vrai, on se devrait dire, bah, il y a la lune devant, il y a moins de lumière. Alors pourquoi c'est dangereux à votre avis?
Les gens, ils oublient d'allumer leur phare vu qu'il fait nuit.
Le phare à ça revient. C'est quand ça revient en fait. Ils regardent et puis quand ça revient, pouf, ils se prennent les soleils dans
alors,
la gueule.
Alors, t'as pas tout à fait tort, mais même pendant l'éclipse, parce qu'au final, les rayons ultraviolets et infrarouges qu'on ne voit pas, eh ben, ils passent quand même derrière la lune,
non, mais...
sur les côtés. Et donc, du coup, ça va brûler notre rétine. Donc, on n'a pas la sensation de brûler à cause de la lumière. Mais ça brûle quand même le fond de l'œil, donc après on a mal aux yeux, et c'est pour
oui,
ça qu'on fait cette recherche sur Google.
Déjà, rien qu'avec des lunettes de soleil, tu regardes pas le soleil directement, ça fait déjà mal aux yeux quoi.
Les gens qui font ça, ils sont comment, Christelle?
Teubé.
Allez. Bah voilà, et on passe à la première question.
Allez.
Yes. Quel sera le carburant du vaisseau spatial nommé ACS-3 qui sera prochainement lancé? Oui, chère Janice.
Les excréments du chien de Jean-Marc.
Non, ce ne sont pas les excréments du chien de Jean-Marc. Bonne idée, mais non. Oui, cher Dylan. Ah, tu sais pas ce que tu veux dire. Oui, chère Christelle.
De l'hydrogène?
Non, ce n'est pas de l'hydrogène.
De l'eau.
Ce n'est pas de l'eau non plus.
C'est du sucre de canne.
Ce n'est pas du sucre de canne. Vous êtes très très loin.
Ah ouais, c'est un carburant fossile.
Est-ce que c'est liquide?
Ce n'est pas un carburant fossile, ce n'est pas liquide.
Ah,
petite idée, Anthony.
C'est inédit, c'est quelque chose qu'on s'attend pas en fait.
On s'attend pas, effectivement. Pas ça. Oui.
Elon Musk.
Ce n'est pas Elon Musk, non. C'est la NASA, figure-toi. Oui, cher Louis.
De l'électricité?
Ce n'est pas de l'électricité.
De l'huile d'olive.
Non, pas de... Pourquoi de l'huile d'olive? Tiens
bah,
donc.
C'est Louis, il m'a fait penser au Portugal et à l'huile d'olive.
Wow.
Un bon régime méditerranéen, oui.
C'est solide?
Non, ce n'est pas solide.
Bah, si c'est pas liquide.
Gazeux.
C'est gazeux.
Et ce n'est pas liquide. Ce n'est pas gazeux vraiment.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est un carburant dont on se sert ici en Nouvelle-Calédonie.
Alors, on se sert indirectement de cette source d'énergie. Attention, c'est pas vraiment un carburant, c'est un piège.
Le soleil.
C'est le soleil. Et c'est quoi du soleil?
Des panneaux solaires.
Non, c'est pas des panneaux solaires.
Photovoltaïque.
C'est pas le photovoltaïque, c'est pas
l'UV. Ah, je sais.
Vas-y.
C'est avec les vents solaires. Ça va.
Exactement, bonne réponse de lui, Charles.
Oh là 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 là. Hein?
Vous voyez, vous le trouvez. C'est les photons du soleil, tout simplement. Les photons, c'est des ça va très vite. Et puis si on met une grande voile solaire, ouais, ça va pouvoir propulser peut-être les vaisseaux.
C'est
peut-être
dingue,
parce qu'on va vérifier.
C'est comme le vaisseau d'Albator, quoi.
C'est comme le vaisseau d'Albator, tout à fait.
C'est aussi comme la planche à voile dans la planète au trésor.
Exactement. Donc voilà, donc c'est parfois la science-fiction, bah, ça peut devenir de la réalité. Et donc c'est ce qu'ils vont expérimenter, hein, dans cette NASA. Alors c'est, par contre, c'est incroyable, le petit vaisseau qui est un prototype, hein, il va être lancé de Nouvelle-Zélande. Je savais pas qu'ils lançaient des fusées, moi, de Nouvelle-Zélande. Et ben, si, ils en
c'est le programme spatial néo-zélandais ou c'est
non, c'est la NASA, mais ils ont une base spatiale. Ils ont certaines fusées qui décollent. Alors ça décolle où? Ça décolle à peu près. Vous voyez le lac de Taupo?
Oui.
Voilà. Vous tirez une droite comme ça, 150 km à peu près vers l'est. Et ben, paf, c'est ici. Vous avez une petite péninsule et vous avez le centre spatial néo-zélandais.
Il y a un lanceur. Ils ont un lanceur en Nouvelle-Zélande.
Et ben, c'est ça, tout à fait. C'est un lanceur qui alors, il appartient à la NASA, hein, quand
oui,
même.
Bien sûr.
Mais il est lancé de Nouvelle-Zélande.
D'accord.
Voilà. C'est un lanceur léger. Il lance des tout petits satellites, des bébés satellites.
Du coup, ça va ressembler à quoi?
De quoi,
si, si c'est une voile, ils ont prévu un vaisseau spatial en forme de bateau.
Genre. Alors c'est un vaisseau spatial effectivement, mais le vaisseau spatial est lancé sur une vraie fusée. Il lance pas avec la voile de la lumière solaire, cher Dylan. Par contre, une fois que ça aura arrivé dans l'espace, il va être éjecté du lanceur et là il va déployer ses ailes comme ça. Voilà, quatre voiles solaires quand même. Pour cette première version, ce sera pas très très grand. Il y aura combien de mètres carrés? Je me souviens plus. 80 mètres carrés, voilà, de surface réfléchie.
C'est grand que chez moi.
C'est plus grand que mon appartement.
Voilà.
C'est pas très grand.
Mais pour une voile, même un voilier, c'est plus grand les voiles des voiliers.
Ce sera
tu
un
vois,
fameux trois mâts fin comme un oiseau.
Voilà. En l'occurrence. Bon ben voilà, en tout cas ils veulent tester ça. Quand il sera à 1000 km hein, après son décollage, hein, au-dessus de l'atmosphère terrestre, il va se positionner, se tourner vers le soleil, il ouvre ses voiles, et puis ensuite on attend de voir comment il avance.
Comme les voyeurs, ce serait les exhibitionnistes.
Wow, c'est ça.
Ce serait con qu'au moment du lancement, il y a la lune qui passe juste devant le soleil. Quoi.
Alors je pense qu'ils calculent ça quand même, ils sont pas aussi teubés que ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
Hey, c'est Jean-Marc. Yannick me demande de vous rappeler que les émissions de Buzz Radio sont disponibles en podcast.
Bah ça alors !
Rendez-vous sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Retrouvez-nous également en vidéo sur buzzradio.energie.nc.
Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie.
Buzz Radio, deuxième partie, en ce mardi 23 avril, ou ce mercredi 24. On va passer rapidement à la deuxième question. Pour quelle raison un cours d'histoire en CM2 dans une école française de l'Oise, vous voulez toujours savoir où ça se passe, a-t-il été impliqué dans l'évacuation d'une école? Oui, cher Louis.
Christelle, elle a fait une intervention.
Christelle a fait une intervention, ils ont évacué l'école. Ils ont tous super. Oui, cher Janice.
Louis a ouvert la bouche.
Wow. Ok, ouais. On rappelle parce que Christelle est méchante et que Louis sent mauvais de la bouche. Oui, effectivement. Oui, Christelle.
C'est à cause d'un phénomène météorologique?
Non, c'est pas un phénomène météorologique, rien à voir avec la météo.
C'est à cause d'une odeur, pardon.
À cause d'une odeur, non pas d'une odeur, Anthony.
C'est par rapport au sujet qu'il abordait dans son cours d'histoire?
Ah, d'une certaine façon. Alors, c'est pas le problème de la maîtresse, finalement, de cette classe de CM2. C'est un élève qui a ramené quelque chose. Ah, comment ça vous aide? Un obi-bon de réponse de Christelle.
Mais attends, qui ramène des obus?
Alors je vous emmène effectivement à Magnolet-Montigny, s'il vous plaît, dans l'Oise. C'est à peu près à 80 km au nord de Paris, Charles-Louis, tu le savais, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Et voilà, donc effectivement, l'institutrice de cette classe de CM2, eh ben, elle organise des cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale. Et puis ça se passe en plusieurs séquences, c'est des enfants, on peut pas faire 3 heures de cours d'affilée. Donc c'est petit bout par petit bout. Et du coup, il y a un jeune garçonnet qui se dit, bah tiens, je vais ramener quelque chose pour montrer à mes copains. Et donc il a mis dans son petit cartable un obus de la Première Guerre mondiale. Et quand il l'a sorti, la maîtresse a paniqué, elle a fait sortir les élèves, elle a fait évacuer l'école. Ils ont fait évacuer l'école voisine d'ailleurs aussi. Et ils ont appelé la police.
Obus,
bah, c'était un sacré obus quand même, il doit avoir mal au dos, lui, de le transporter.
C'est une info qui s'est passée là, ces derniers
temps.
C'était
la semaine dernière.
C'est déjà arrivé ça, qu'un enfant ramène une grenade ou un obus.
Quoi,
ouais, bah,
ouais, ça arrive régulièrement.
Mais à quel moment tu confies une grenade à ton enfant?
Non, mais
tiens, amène ça à l'école.
Mais toi, normal, tu volais jamais rien. Les poignards, tout ça, non, tu volais pas.
Quoi, mais quel enfant? Quelle enfance tu as eu, Yannick?
Moi je volais les poignards de mon
d'accord,
père.
D'accord.
Ah, on n'a pas la même vie, effectivement.
Non, moi je volais des chewing-gums à la limite.
Ah, oui, Chris.
À l'époque où je bossais en bas de la ville, ils étaient en train de creuser la rade pour le nouveau Betty Cho, le Betty Cho 2. Donc il fallait sortir du sable. Et il y a un passant qui a trouvé un obus qui est sorti du tuyau. Donc au lieu de le laisser là et d'appeler les démineurs, non, il a pris l'obus et il l'a emmené au commissariat qui était juste à côté. Commissariat qui se situe à côté de l'hôpital Gaston Bourré. Autant vous dire qu'ils ont évacué je ne sais combien de pâtés de maison, donc tous les bureaux et tout, et ça a duré qu'une bonne partie de la journée, quoi.
Ouais, bah c'est pratique, au moins c'est pas loin de l'hôpital, tiens, si ouais, je dis ça comme ça. On applaudit ce gamin, allez. MFG. Allez, avant de continuer à prendre la salle express en direction du centre commercial d'un BMO, les Green Retail, cher Dylan.
Yes, vous aimez les crêpes et les galettes qui ont du caractère? En ce moment, au food court de Dumbéamo, Creepit vous propose sa galette salée rougail saucisse. Elle est garnie d'oignons, de tomates cuisinées, de saucisses fumées, de fromage râpé et de piment de Cayenne à savourer à la carte ou dans un menu avec la boisson. Creepit, c'est votre crêperie au Dumbéamo.
Exactement. Vous avez remarqué le petit accent sur rougail saucisse. Ça, c'est la classe. Je rappelle que le Dumbéamo et le Green Retail sont plus de 30 boutiques et restaurants à votre service pour une expérience shopping inédite en Nouvelle-Calédonie. Retrouvez tous les bons plans et promos sur la page Facebook Dumbéamo.
La chronique du jour.
Avec le café Del Paps, déjeuner ou dîner comme à la maison, dans un cadre exceptionnel, dominant la baie de Nouville. Réservation 24 69 99.
Yes, on va pas trop traîner parce que Louis a fait une chronique très longue, c'est
parti. Allez, les amis, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais inaugurer avec vous le premier épisode de ma nouvelle série intitulée, j'ouvre les guillemets, Voyage aux quatre coins du monde et parlons un peu de ces pays que nous ne connaissons finalement pas tellement. Je ferme les guillemets, je pense que je vais encore bosser un peu sur le nom.
Oui.
Dans cette émission, on va décortiquer un peu ces régions de notre planète en histoire, en chiffres, en culture. Et pour commencer cette série, quoi de plus normal que de parler du Portugal ? Allez.
Vas-y,
tu fais des lancements.
Ah oui, merde, c'est moi. Mince alors, Yannick. Le Portugal dans l'histoire, on commence
par ça. Situé sur la côte atlantique de ce qu'on appelle la péninsule ibérique, c'est là où il y a l'Espagne, en gros. Les premières traces de civilisation datent d'il y a plus de 22 000 ans, avant Jésus-Christ. Le Portugal actuel est le fruit de multiples occupations, des Romains d'abord, qui ont latinisé les peuples présents, et c'est celle des Arabes établis depuis le 8e siècle dans la péninsule et allègrement virés par les Portugais en 1249, que le Portugal est celui qu'on connaît aujourd'hui. En termes de frontières, j'entends.
Ouais.
Les Espagnols, eux, ces bolos, n'ont récupéré leurs terres que 240 ans après, ce qui fait que le Portugal est un des pays les plus anciens du continent européen, et ça, c'est la classe du caraï. Aussi ancien soit-il, le Portugal, c'est quand même petit, et avec ses 848 km de côte, vu sur l'océan Atlantique, c'est tout naturellement que Henri le Navigateur, Delphine, elle a pécho Henri l'Aviateur, hein, Henri le Navigateur, lui, il a décidé de partir à la conquête du monde au 15e siècle, et c'est ainsi que naquit un immense empire colonial. Entre 1415 et 1542, c'est installé au Maroc, aux Açores, dans toute la côte occidentale africaine, au Brésil, dans toute l'Asie et notamment au Japon.
Ah bah
si ça se trouve, j'ai un ancêtre explorateur portugais qui a fait un séjour au Japon.
Spoiler, non.
Ce serait dingue. Le Portugal a exploité ses colonies jusqu'à assez tard finalement. Il est le dernier pays à avoir décolonisé l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale à cause d'un certain Antonio de Oliveira Salazar. C'était un peu un méchant dictateur. Le Portugal rentre dans l'Union Européenne en 1986 et fait partie de ce qu'on appelle maintenant l'Europe des 12.
En parlant de chiffres, fais-moi le Portugal en chiffres, s'il
le
te plaît.
Le Portugal, c'est 92 km carrés pour 11 millions d'habitants.
92 000, rassure. Moi.
Oui, oui, pardon, ça fait un très grand pays. 92 000 km carrés, pardon. 850 km de côte, ça fait une sacrée plage. Le Portugal, c'est zéro Coupe du Monde de football et une seule fois champion d'Europe en 2016. Le portugais est la langue officielle dans 9 pays du monde avec plus de 320 millions de locuteurs dans le monde. C'est le cinquième pays à la population la plus vieille. C'est le premier producteur de liège au monde. Oui, je commence à galérer à trouver des chiffres intéressants. Et 3 millions de fois, c'est le nombre de tours de la Terre qu'on peut faire en alignant tous les poils de moustache des grand-mères portugaises.
Pas mal, on va continuer avec le Portugal en musique, cher Louis.
Musique, s'il te Commençons plaît.
Commençons par cela.
Nobre povo na São Valentim, à la patrie. On vient d'écouter A Portuguesa, l'hymne officiel du Portugal depuis 1911. C'était à la base un chant patriotique en réponse à un ultimatum britannique qui ordonnait aux Portugais de se casser d'Afrique. Et les Portugais ont répondu « As armas por do caralho, va cagar filho da puta !» qui veut dire « Mes chers amis, je me vois dans l'obligation de refuser votre proposition. » Sinon, le Portugal est fier de Carlos Seixas, un compositeur de l'époque baroque. Et oui, Barroco, mon nom de famille, vient de là d'ailleurs. Écoutez plutôt. Sympa, non ?
Sympa, ouais.
Très sympa. Sinon, le Portugal est beaucoup plus connu pour ça. Ça, c'est Amélia Rodrigues, un peu notre Edith Piaf dépressive qui nous chante du fado. Style musical inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même, caractérisé par cette tristesse, cette mélancolie.
Attends, elle écoute un peu.
On s'ouvre les veines.
Il chante pas, là.
Non, c'est pas moi. Mais le Portugal, c'est aussi ça. Élégance, et prestige, n'est-ce pas?
Très bien, on va continuer par le Portugal en cuisine, tiens donc.
Ça, c'est une séquence spéciale pour Jean-Marc et les gourmands, où je vous donne la recette d'un plat du pays duquel on parle aujourd'hui. Pour le Portugal, pas de bacalhau ou de pastéis de nata, c'est la recette du babat camel, ou bave de chameau en français. Il vous faudra une boîte de lait concentré sucré et 5 œufs. Vous prenez une boîte de lait concentré sucré en boîte que vous mettez dans une cocotte à cuire pendant près de 35 minutes. Je suis un peu genre, hein. Vous la sortez et la laissez refroidir, très important, sinon ça va cuire les œufs. Après avoir séparé vos jaunes de vos blancs, j'arrête hein, parce que c'est relou, vous allez monter les blancs en neige d'un côté et battre les jaunes de l'autre en y ajoutant votre lait concentré caramélisé. Les jaunes et le lait mélangé, vous allez y incorporer les blancs en neige et laisser reposer tout ça au frigo, minimum une heure. Le lendemain sera le meilleur. Dégustez cette merveilleuse mouche au caramel.
Ça alors. Et tu termines par le Portugal en personnalité.
Ici, on parle des Portugais les plus célèbres de l'histoire. Je pense que celui qu'absolument toute la planète connaît, c'est évidemment Cristiano Ronaldo, légende absolue. Bah non, j'avais pas parlé de moi quand même. Légende absolue du football et homme élevé au rang de dieu vivant par les Portugais. Le football étant vraiment une institution au Portugal, je pense qu'il n'y a pas un seul Portugais vivant qui ne voue pas un amour inconditionnel à CR7. Autre légende du foot et plus vieux, on a Luis Figo, légende du Real de Madrid qui faisait partie de la Dream Team à l'époque, aux côtés de Zidane et Ronaldo Nazario. Sinon, il y a Vasco da Gama et Magellan, Magallan en portugais, des explorateurs qui ont parcouru quasi la totalité du globe. Magellan est d'ailleurs le premier à avoir effectué une circumnavigation. Alors, c'est pas le premier à naviguer circoncis, non, non. C'est le premier à avoir fait le tour du monde en bateau. Et je finirai avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. C'est le plus haut fonctionnaire de l'ONU, ce qui veut un peu dire que la paix dans le monde est dirigée par un portugais. Et ça, j'en ai la larme à l'œil.
Ça va, Luis? Alors, oui. C'est drôle quand on écoute l'hymne portugais, parce que c'est chanté de loin dans un stade, j'imagine. On a l'impression que c'est du russe, tu vois.
Oui, c'est vrai bizarre, que quand même. Le russe et le portugais se mélangent un peu.
Bah, ouais. Dictature, votre.
Bah, ça l'était pendant à peu près une quarantaine d'années, donc oui. C'est un copain de Franco d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Christelle, une réaction.
Je suis très étonnée que parmi les personnalités, tu n'aies pas cité Rick Azaraï.
Moi, pourquoi je me suis pas cité moi, wesh?
Non, mais toi, on s'en fout.
C'est vrai que c'était une Portugaise, Rick Azaraï.
Et puis elle a eu son heure de gloire aussi. C'était il y a longtemps, mais il n'y a pas beaucoup de gens connus quand même au Portugal.
Je ne pouvais pas parler de tous. Et déjà, je trouve que j'ai fait une belle sélection de beaux Portugais.
J'espère que tes prochaines chroniques sur d'autres pays seront aussi longues que celles que tu as faites sur Portugal.
Ouais, il faut que je donne beaucoup de temps quand même. Mais c'est quoi le prochain pays vous voulez qu'il fasse? Ah oui, c'est vrai, on va faire ça, dis donc.
La Moldavie. La Grèce.
Alors moi, j'ai une copine moldave, d'ailleurs elle s'appelle Marcella, on a fait nos études ensemble. D'ailleurs, on l'appelait Tchernobyl, voilà, c'est comme ça.
Super,
l'appelait.
Bravo. Ouais.
Elle était sympa.
Du coup, il y a Janice qui a proposé la Moldavie et
la Grèce.
Christelle, la Grèce. Ouais. On prend quoi?
On va prendre la Moldavie.
Allez, la Moldavie, c'est parti.
Allez, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le Buzz Radio tous les soirs, 18h30 sur l'antenne d'énergie. On va réapplaudir notre invité qui va revenir demain soir, effectivement, Léa.
Merci.
Léa qui est infirmière et puéricultrice, qui va revenir tout au long de la semaine. Hein, on fait ça. On vous embrasse, on vous dit à demain. Bisous les amis.
Buzz Radio, c'est sur Énergie.
Avec le Café Del Paps, déjeuner ou dîner comme à la maison, dans un cadre exceptionnel, dominant la baie de Nouville. Réservation 24 69 99.